Nous voici donc avec des textes très riches. Combien la parole de Dieu peut nous rejoindre. Tout d'abord avec le livre de la sagesse. Combien de fois j'entends des gens qui disent « Ah, Dieu a rappelé à lui quand quelqu'un décède », comme si c'était Dieu qui décidait la mort de quelqu'un. Là, c'est très clair, Dieu ne veut pas la mort. C'est clair. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Sachons entendre cela avec force, quelles que soient les épreuves que nous avons à vivre. Soyons à la vie. Et osons entendre ce que dit encore la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité et il en a fait son miroir. Et enfin, pour finir avec la sagesse, qu'est-ce qui fait que la mort est arrivée, le mal est arrivé? C'est la jalousie. Alors peut-être peut-on écouter au fond de nous les germes de jalousie entre l'autre qui fait mieux que moi, celle-ci qui fait ceci. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je ne suis pas capable de me réjouir de la réussite de mes collègues. » Quelle tristesse! Puis quel orgueil! Ça voudrait dire qu'il n'y a que lui qui fait les choses bien. C'est tellement bon de se réjouir de voir que quelqu'un excelle dans tel ou tel domaine et de transformer cela en action de grâce, en merci, en joie. Dans mes méditations, je me suis beaucoup arrêté avec saint Paul. Je trouve ça extraordinaire, ce qu'il nous propose. Parce qu'il commence en disant, vous êtes dans l'abondance. Celui qui a de l'abondance, il n'a besoin de rien. Tout va bien. Et c'est quoi l'abondance? La foi, la parole et la connaissance de Dieu. Te rends-tu compte que tu as en toi la connaissance de Dieu? On peut se poser déjà la question, tiens, comment suis-je capable d'en témoigner de cette connaissance de Dieu? Quand dans notre société, Dieu ne dit plus rien, comment suis-je son relais? Ensuite, au milieu de ce passage, on voit que Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre, pour que, pauvres que nous sommes, soyons riches de sa vie. Et alors c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'il va terminer, hein, parce qu'en fin de compte il est en train de faire une collecte d'argent pour une communauté qui est en détresse. Donc il vient voir ceux qui ont de l'argent et leur dit « donnez quoi, soyez généreux ». Et souvent quand on est auprès de gens qui sont en difficulté, on se dit « ah, les pauvres, presque on s'abaisse auprès d'eux, heureusement que je suis là pour leur apporter quelque chose ». Hey, sauf que là, il va inverser les choses. Écoutez bien ça. Ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. Oui, ils ont besoin de telle ou telle chose. Afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Je trouve ça génial. C'est un total retournement. Vous, fille de la charité, qui avez été toute votre vie à donner, à donner, à donner, servir toujours, mourir les armes à la main, comme disait Saint Vincent. voilà, donc il faut toujours être au service, même à la récréation, il faut faire du tricot, je ne sais trop quoi, pour toujours être rentable. Oh, mais enfin quand même. Et peut-être que pendant ce temps-là, je n'écoute pas mes propres besoins. C'est tellement plus confortable, entre guillemets, d'être celui qui apporte à l'autre, le pauvre. Et là, saint Paul nous propose de reconnaître que moi-même, je suis pauvre. Moi-même, j'ai des besoins. Est-ce que je suis prêt à recevoir de l'autre? Très souvent, je dis à des personnes qui sont en maison de retraite que cette dernière étape, cette dernière ligne droite, qui n'est pas si droite que ça, c'est un véritable chemin spirituel. Toute notre vie, on nous apprend à être autonome, à se débrouiller par nous-mêmes. Je suis capable, laisse-moi faire. On n'aime pas être aidé. On veut montrer qu'on est quelqu'un, quoi. Le temps de la vieillesse, c'est le temps où j'apprends à me laisser faire. J'apprends à dépendre des autres. Ô combien cela est difficile. Mais ô combien ça peut créer un chemin de fraternité. Est-ce que je suis capable de voir dans celui que je sers qu'il a quelque chose à m'apporter? Qu'est-ce que je lui demande? Toi, quand on te demande un service, tu es contente. Tu te dis, tiens, il a besoin de moi. Si tu veux rendre service à un pauvre, entre guillemets, demande-lui quelque chose. Il va être heureux. Il va être heureux. Je sers à quelque chose. Et puis, le temps de la retraite, c'est quand même étonnant dans notre société qu'on met les gens à la retraite. C'est-à-dire qu'on les met en retrait. Imaginez qu'on mette vraiment en retrait tous les retraités. Ben, notre société, franchement, je ne sais pas ce qu'elle donnerait. Quand on voit combien d'associations qui fonctionnent grâce aux retraités. Mais du coup, être en retrait, c'est savoir être plus posé. Je ne limite plus ma vie à ce que je fais. Cette semaine, un petit temps de discussion avec une d'entre vous me dit, oh là, j'étais changé de communauté et puis je voulais encore faire plein de choses parce que voilà, il y a le feu divin qui est là, c'est génial. Ah, et puis j'ai vite compris que non, j'étais dans une nouvelle communauté, un nouvel environnement, j'étais avec des personnes d'un certain âge. J'ai compris qu'il fallait que je reste là. Être simplement une présence. Et combien une simple présence peut apporter beaucoup plus que du faire. Enfin, l'Évangile. À l'écouter comme ça un peu rapidement, Jésus qui guérit une dame qui a souffert pendant 12 ans, qui va ressusciter une fille de 12 ans qui est morte, on pourrait dire vraiment, Jésus c'est le super magicien. Hein, il claque des doigts et yahou, super. Avec le risque ensuite, quand on a des épreuves chez nous, de dire mais qu'est-ce qu'il fout le bon Dieu? Comment ça se fait qu'il a ressuscité cette fille, qu'il a guéri cette femme et que moi je suis toujours avec mes douleurs? Jésus n'est pas un magicien. Mais il nous permet de donner à travers ce récit des points de repère sur la manière de vivre notre existence. Il met en fin de compte en exemple, non pas lui, mais une femme qui vient. Ça fait 12 ans qu'elle a des très grandes douleurs dans son corps, jusqu'à des saignements. Elle souffre, elle a tout essayé, tous les toubibs, toutes les médecines parallèles, tous les charlatans, tous les bonimenteurs et tout ça, elle n'a jamais rien réussi. Elle pourrait être largement découragée, devenir fataliste, se replier sur elle-même. Et que voit-on? Une femme qui a la hargne. Elle va y arriver. Elle a entendu parler de Jésus et elle dit, si seulement je touche son manteau, je serai guérie. T'imagines la foi de cette femme? Et là, dans ce récit, c'est même pas Jésus qui sauve. C'est lui-même qui le dit. Ta foi t'a sauvée. Combien de fois il le dit, Jésus ? Ensuite, là, avec Jaïr, il va dire « Crois seulement ». Et plusieurs fois dans les évangiles, on entend « Qu'il aille selon ta foi ». Alors, si tu crois que tu ne vas pas réussir telle ou telle épreuve, que tu ne vas pas t'en sortir au niveau de la maladie, si tu crois que tu n'es pas capable d'améliorer une relation avec telle ou telle personne, Jésus te dit « Qu'il aille selon ta foi ». Hey, il faut faire attention de la manière dont on croit la relation à l'autre. Ou comment je me positionne face à une épreuve ou à une étape à passer. Est-ce que je crois que je vais avancer vers ce Dieu de la vie ? Il nous met aussi en exemple cet homme. Au départ, on dit que c'est un chef de synagogue, mais au fur et à mesure qu'on approche et qu'on le connaît un petit peu mieux, c'est le chef de la synagogue. C'est Jaïr. C'est quelqu'un de bien habillé, un notable. Il a de la grande crédibilité, parce que c'est lui qui donne la référence vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, il va venir vers Jésus. On a juste entendu parler de lui, c'est un peu un va-nu-pied. Et il va se prosterner devant lui, lui le chef de synagogue. Mais normalement, on se prosterne que devant Dieu. Il faut entendre, parce qu'il faut se mettre un peu à la place de Jaïr. Il aurait pu avoir peur du regard des autres quand même. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me mets à genoux devant un homme ? Il n'a pas peur de mettre tout ça de côté. Et par amour pour sa fille qui est en train de mourir, il est capable de dire « Aie pitié de moi, aide-moi, viens sauver ma fille. » Et les autres viennent lui apporter la mauvaise nouvelle, elle est morte. Jésus, paisible. Hein, quand on a parfois des projets, quand on dit « Non, franchement, tout est foutu, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. » Crois seulement. Il arrive à la maison, tout le monde est en pleurs, tout le monde est venu voir la morte, tout le monde est dans la détresse. Et Jésus dit non, elle dort. Mais il faut imaginer sûrement la violence du moment. Et de fait, on se moque de lui, mais qui tu es toi ? On voudrait le foutre dehors. Or, c'est lui, le maître, qui dit tout le monde dehors. Des fois, on a besoin de laisser de côté tous ceux qui nous tirent vers le fond. On a à rester avec l'essentiel. Les parents de la fille, les trois disciples les plus proches de Jésus. Et là, pareil, Jésus, il va aller contre la loi. Normalement, on ne touche pas un mort. Toucher un mort, c'est impur. Il ne touche pas la mort, il touche la vie. Talitakum, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Cet évangile nous révèle profondément combien Jésus, il est le Dieu de la vie. Quand nous laissons tourner en boucle dans nos têtes ou dans notre cœur que les choses qui ne vont pas, on n'est pas sur la bonne route. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie de pouvoir être renouvelé dans notre foi, d'avancer de nouveau sur le chemin du Christ. Et puis, dernière petite chose de l'Évangile qui est quand même fort étonnant, tout le monde a vu la morte, la jeune fille morte. Jésus la ressuscite et il leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. C'est aberrant. En fin de compte, il nous dit, ne faites pas croire que je suis un magicien. Je suis le Dieu de la vie. Ne nous trompons pas de message. Et enfin, il est très concret, donnez-lui à manger. Quand quelqu'un est en difficulté, nous avons à en prendre soin.
demandons cette grâce d'être les témoins de Dieu dans notre monde.